écouter une lettre. Une lettre dont l'auteur n'est autre que Dieu lui-même. Alors bien sûr, on a tendance à dire que la Bible est une lettre de Dieu aux hommes. Il y a aussi de nombreuses épîtres qui sont écrites par l'apôtre Paul, Pierre ou Jean. Mais ce matin, j'aimerais que nous écoutions une lettre, ou plutôt sept lettres, écrites à cette église, dictées par Christ lui-même à l'apôtre Jean. Cette lettre, donc, dictée à l'apôtre Jean par Jésus-Christ, qu'on trouve dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse ou la Révélation. Cette lettre, écrite pour sept églises différentes, dans leurs caractéristiques, dans leur situation, dans leur époque, certains y voient aussi l'histoire de l'Église. Cette Église de l'Asie mineure, l'actuelle Turquie. Éphèse, ou l'Église qui a perdu son premier amour. Smyrne, ou l'Église dans l'épreuve. Pergame, ou l'Église menacée. Thyatire, ou l'Église activiste. Sardes, ou l'Église réputée vivante. Philadelphie, ou l'Église fidèle. Laodicée, ou l'Église tiède. C'est une lettre, donc, ce sont des lettres à des églises, et nous voulons ce matin écouter ces lettres en tant qu'église, en tant que communauté, en tant que responsable aussi, parce que dans l'Apocalypse, ce qui est assez particulier, c'est qu'en fait, le message est donné à un ange, en fait, un responsable de l'Église. Et puis je crois que nous pouvons aussi l'écouter en tant qu'individu, parce que l'Église est constituée d'individus qui ont été appelés individuellement à suivre le Christ pour rejoindre son peuple, c'est-à-dire l'Église. Chacun pourra se retrouver dans l'une ou l'autre de ces lettres, que celui qui a des oreilles...
Voici.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cette lettre écrite à cette église, et d'abord nous porterons notre regard sur l'auteur de ces lettres. Et vous verrez qu'à chaque fois, dans les versets qui nous seront projetés, il y a l'expression « celui qui ». Et donc cela va nous permettre d'apprendre qui est l'auteur de ces lettres, qui il est, ce qu'il est, pour peut-être ensuite mieux l'écouter, pour mieux écouter ce qu'il a à nous dire. Donc première lettre, à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Ou dans une autre version, et qui vit au milieu des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles, Jésus dira un peu plus haut, dans Apocalypse 1, que ce sont les anges des sept églises, les messagers des sept églises. Et les sept chandeliers, Jésus dira à Jean, c'est en fait, ce sont les sept églises. Jésus-Christ, celui qui écrit la lettre à l'église d'Éphèse, a dans sa main les anges, les messagers, les responsables des sept églises. Il y a cette notion de protection, il y a cette notion d'importance que Dieu porte à ses églises, à son église d'Éphèse. Il y a cette notion de souveraineté sur son Église. Et puis, il est celui qui est au milieu des sept Églises, qui marche au milieu d'elles, qui vit au milieu d'elles. Sa présence parmi les Églises, au sein des Églises. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Je vous invite à chanter un prochain chant, Jésus est au milieu de nous. Et nous voulons écouter sa voix qui veut nous dire, je veux vous bénir tous, je vous aime tous. Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu des sept chandeliers. Les sept chandeliers, ce sont les églises. Et cela nous rappelle que l'église est lumière du monde. Jésus dira à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe, si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Vous êtes la lumière du monde. Il n'est pas dit vous devez être, vous êtes la lumière du monde. Dans sa nature, l'Église est visible. À nous d'être ce que nous sommes, la lumière du monde. Amen. Deuxième lettre, à l'ange de l'Église de Smyrne, écrit. Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui a été mort et qui est à nouveau vivant. Le premier et le dernier. Au début de toute chose, à la fin de toute chose, au début de notre histoire, à la fin de notre histoire. Au début de l'histoire des hommes, à la fin de leur histoire. Il était au commencement, il a eu le premier mot, il aura le dernier mot. Qu'il soit à nos départs et à nos arrivées, au départ et à la fin de nos projets, que nous soyons, que nous entrions dans ces projets. Le psaume 121 nous dit « L'Éternel veillera sur toi, de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. » C'est notre espérance. Celui qui a été mort et qui est à nouveau vivant. L'apôtre Paul dira aux Colossiens, Jésus-Christ est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même et la tête et le chef de son corps, de l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Et dans l'Épître aux Corinthiens, en réalité, le Christ est bien revenu à la vie, comme les premiers fruits d'une abondante moisson. Il annonce la résurrection des morts. Et un peu plus loin, le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Nous voulons proclamer ce Dieu, Jésus-Christ, ressuscité. Troisième lettre, il y en a sept en tout. À l'ange de l'église de Pergame, écrit. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Un peu plus haut dans Apocalypse 1, lorsque Jean voit Jésus-Christ de cet aspect très glorieux, il nous dit que de la bouche en fait du Christ sortait une épée aiguisée à double tranchant. Sa parole comparée à une épée aiguisée à double tranchant. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointures et moelles, et juge ainsi les dispositions et les pensées du cœur. Alors nous voulons écouter ce que Dieu veut nous dire, ce que Christ veut nous dire par ses lettres. À l'ange de l'église de Thyatire, écrit. Voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Les yeux comme une flamme, l'emblème de toute la science qui pénètre jusqu'au fond des cœurs et de la sainteté qui consume toute souillure. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. Le psaume 139 nous dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Merveilleux savoir, hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Les pieds comme du brun, comme du bronze, comme de l'airain ardent. Symbole, suivant les uns, de la fermeté dans la démarche, ou d'autres, la puissance avec laquelle le Christ écrasera ses ennemis. Alors nous voulons chanter la puissance de Dieu, car Dieu est un Dieu puissant, sa souveraineté, une souveraineté, une puissance conduite dans la grâce et dans l'amour, une puissance bienveillante. Cinquième lettre, à l'ange de l'église de Sardes, écrit. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Celui qui possède l'esprit de Dieu dans sa plénitude. Les sept esprits de Dieu symbolisent toutes les perfections divines et les dons divers du Saint-Esprit. Et les sept étoiles nous rappellent que le Christ est le maître tout-puissant de l'Église et du ministère dans l'Église. L'apôtre Paul dira aux Éphésiens, « Le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et ce Christ, qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. » Nous voulons continuer d'écouter la lettre, cette fois celle écrite à l'ange de l'Église de Philadelphie. À l'ange de l'Église de Philadelphie, écrit. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, qui a le pouvoir sur le royaume de David, Jésus-Christ étant lui-même fils du roi David. Celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Celui qui ouvre les portes et qui ferme les portes. Celui qui dira à l'église de Philadelphie un peu plus loin, une porte que nul ne peut fermer, malgré l'adversité, malgré sa faible puissance. Il est le véritable. L'apôtre Jean dira dans sa première épître, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Septième et dernière lettre, à l'ange de l'église de Laodicée, écrit. Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. L'Amen. Car pour ce qui nous concerne, dira l'apôtre Paul, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Oui, c'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen, c'est le tout est accompli, prononcé par Jésus-Christ sur la croix. Amen, c'est qu'il a accompli les promesses de Dieu. Amen, c'est le tout est possible à Dieu. C'est rien ne lui est impossible. Le témoin digne de foi est véridique, alors faisons-lui confiance. Croyons en ce qu'il dit, écoutons ce qu'il a à nous dire. Celui qui a présidé à toute la création de Dieu, Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous voulons aussi chanter ce Dieu créateur, Jésus-Christ, au commencement de la création. Toi seul es digne. Nous souvenir que la création est un acte de puissance, mais il est aussi un acte de grâce, un acte d'amour. Nous avons fixé nos regards sur l'auteur des lettres. Nous pourrions en fait écouter ce qu'il a encore à nous dire. C'est important au départ de porter notre regard sur l'auteur de ces lettres parce que c'est ça qui nous permet de l'écouter ensuite. Il est le véritable, il est celui dont la bouche est comme une épée à double tranchant, il est celui qui ouvre les portes, il parle avec autorité, il est le premier, il est le dernier. Le Père dans le ciel dira lui-même de son Fils, après la transfiguration, ce temps de gloire de son Fils. Les disciples écouteront cette parole. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Il est le témoin véritable, aux yeux de flamme, à la parole tranchante. Il parle avec autorité. Il parle avec vérité. Il parle aussi avec bienveillance. Et il parle avec amour. Ce matin, je crois que ça va être compliqué de continuer ce que j'avais prévu, mais ce n'est pas grave. J'avais prévu de vous donner quelques extraits des lettres écrites aux églises pour vous montrer en quoi, pour chacune des églises, Christ a écrit une lettre très individualisée, très personnalisée, propre à chacune. Et c'est une lettre, en fait, qui est aussi une sorte de diagnostic de médecin. Et dans ces lettres, vous verrez, on aura peut-être l'occasion de les réétudier ensemble, un autre dimanche, vous verrez que le Christ commence par « Je connais ». « Je te connais. Je connais ta conduite. Je connais tes œuvres. Je sais là où tu habites. Je connais ta persévérance. Je connais ta peine. Je te connais. » Et ce qui est beau dans l'écriture de ces... La lecture de ces épîtres, de ces lettres aux églises, c'est que nous voyons que Christ connaît chacune de ces églises vraiment. Vraiment, sincèrement, honnêtement, de façon juste. De façon intime aussi. Il est celui qui est au milieu des chandeliers, il est au milieu de nous aussi aujourd'hui, l'église d'Angoulême. Il voit ce que d'autres ne voient pas. Il voit ce que nous-mêmes nous ne voyons pas. Sur nous-mêmes. Et dans ses lettres aux églises, il dit, chacune des églises, et ça dépend des fois, il dit, je te connais, je connais tes bons côtés, et je connais aussi tes mauvais côtés. Je connais les bonnes choses, et je connais aussi les moins bonnes. Et ce qui est beau dans ces épîtres, c'est que Jésus va démarrer par ce qu'il sait de bien chez les églises. Je te dis ce qui va. Et donc il va y avoir toute une série de paroles encourageantes. Je connais ta détresse, je connais ta persévérance. Et je trouve que c'est intéressant de voir que le Christ, lorsqu'il écrit à quelqu'un, lorsqu'il écrit à une église, lorsqu'il pose son diagnostic sur elle, il commence par les choses qui vont bien. Alors on pourrait dire que c'est démagogique, je dirais plutôt que c'est diplomatique. Et nous verrons ensuite que Jésus-Christ n'est pas juste dans une vision idyllique, le verre à moitié plein, il y a des verres à moitié pleins, des verres à moitié vides. Jésus n'est pas dans cette posture-là. Quand il y a des bonnes choses à dire, il les dit et il commence par cela. Parce que je crois que son regard sur l'Église est d'abord bienveillant et il voit les bonnes choses. Et même pour certaines églises dont il voit que les choses ne vont pas, il arrive quand même à dire une nuance, mais j'ai quand même quelque chose pour toi. C'est que tu as telle ou telle chose, telle ou telle chose. Alors qu'avant... Il a donné des reproches très durs au point qu'il dira « Si tu continues comme ça, j'enlève le chandelier. » Je te connais, je te dis ce qui va et je te dis aussi ce qui ne va pas. La vérité d'un ami, c'est d'être capable de se dire aussi ce qui ne va pas. Nous commençons souvent par ce qui ne va pas. Ça m'a interpellé en lisant ces épîtres. Notre comportement en tant que parent, on pointe souvent ce qui ne va pas chez nos enfants, on pointe souvent ce qui ne va pas chez notre conjoint. et dans nos relations aux autres, et peut-être par rapport à notre Église aussi, nous voyons d'abord ce qui ne va pas. Alors, Christ reconnaît que dans certaines églises, il y a des choses qui ne vont pas et des choses graves. Il y a une église qui a perdu son premier amour, une autre qui est tiède à en vomir, une autre qui laisse les faux docteurs prendre de la place et dont il menace de retirer le chandelier. Mais ce qui est beau dans la lecture de ces épîtres, c'est que le Christ ne se contente pas de faire un diagnostic. Je te dis ce qui va, je te dis ce qui ne va pas et je m'arrête là. Le Christ ne se contente pas de ce diagnostic. Comme un bon médecin, il prescrit le traitement. Il ne se contente pas des choses qui ne vont pas, il se dit tant pis pour toi, il a encore envie que les choses changent. Et alors il y a toute une série de lettres d'églises auxquelles il écrit en disant « Mais change d'attitude, ranime ce qui est mort, je te conseille d'acheter de moi de l'or, etc. pour que tu puisses de nouveau voir comme moi je vois les choses. » Jésus-Christ qui prescrit le traitement, réagit, change d'attitude. Et puis à d'autres qui n'ont pas besoin de changer, il donne des paroles d'encouragement. Persévère, sois fidèle jusqu'à la mort. Des paroles très fortes qui encouragent. Le peu qui te reste, je le tiens dans ma main. Et puis à la fin des épîtres, il y a des promesses. Des promesses qu'on ne comprend pas bien, que je ne comprends pas bien, des choses un peu mystérieuses, une pierre blanche, un nom écrit sur le front, c'est un petit peu curieux. Mais ce que je sais, c'est que ces promesses de fin sont des promesses, là encore, de bonté et d'amour de la part de notre Dieu. Ce sont des promesses aussi qui sont adressées aux vainqueurs. Et parfois, quand on lit cette épître, on se dit aux vainqueurs, mince, si je ne suis pas vainqueur, si je ne persévère pas jusqu'à la fin, je n'aurai pas droit à ces promesses. Mais on peut le voir d'une façon plus constructive, c'est que Dieu nous voit en vainqueur et qu'il nous permettra d'avoir la victoire. Oui, nous sommes dans une lutte. L'apôtre Paul dit « Je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix que Dieu, du haut du ciel, nous a appelé à recevoir dans l'union avec Jésus-Christ. » Dietrich Bonhoeffer dira, vous savez, c'est ce pasteur qui a pris position contre le nazisme et qui a été donc tué par les nazis. Il dira, seul est perdu la bataille qu'on abandonne. Seul est perdu la bataille qu'on abandonne. Alors il y a cette promesse au vainqueur qui est une promesse de grâce. Christ veut que nous participions à sa victoire. Et puis donc ces promesses mystérieuses nous montrent aussi une autre chose. Ce sont des promesses qui nous veulent du bien, et j'ose dire, je crois, ce sont des promesses qui nous honorent. Bien sûr, nous sommes indignes, mais parfois nous portons peut-être trop de regard sur notre indignité, alors que vous écouterez ces promesses. Christ veut nous partager sa dignité. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les frères de Jésus-Christ. Alors, je vous propose de terminer par la lecture sans autre commentaire, ou peut-être quelques commentaires de ces promesses des fins de ces lettres. Et puis sur le contenu plus des lettres, eh bien, soit vous les lirez vous-même, ou peut-être que nous aurons l'occasion de les partager un autre dimanche. À l'église d'Éphèse, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà la clé peut-être pour retrouver son premier amour, cette relation quotidienne symbolisée par cet arbre de vie, ce fruit de l'arbre de vie que l'on mange chaque jour. À l'église de Smyrne, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Parole donnée à cette église qui doit être fidèle jusqu'à la mort. Celui qui sortira vainqueur de la lutte n'aura rien à craindre de la seconde mort. Elle ne pourra pas le toucher. À l'église de Pergame, au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Un nom inconnu de tous, sauf de l'intéressé. Lui seul le comprendra, un secret entre nous et Dieu. Au vainqueur, à l'église de Thyatire, au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin, selon mon enseignement, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les poteries d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père. et je lui donnerai l'étoile du matin, ou dans une autre version, l'éclat du jour naissant. À l'église de Sardes, le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Reconnu comme sien, en présence de son Père et de ses anges. À l'église de Philadelphie, au vainqueur, du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Promesse de stabilité à cette église de Philadelphie qui n'a que peu de puissance. Et à l'église de Laodicée, le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Le partage du trône du Christ. Quelle promesse ! Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen.